Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on aimerait comprendre les mécanismes de l'hypersensibilité et les implications dans la vie quotidienne, à la fois chez l'adulte et l'enfant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui la psychologue et psychoclinicienne Jeanne-Sio Fachin, qui va nous aider en deux épisodes à décrypter les formes d'hypersensibilité et nous éclairer sur le lien entre l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Quelle différence entre l'hypersensibilité physique et émotionnelle? Comment identifier et gérer l'hypersensibilité? Qu'est-ce que cela change de se savoir hypersensible? Comment accompagner un enfant dans son éducation pour un épanouissement émotionnel? Comment l'aider à décoder les signaux corporels liés à ses émotions? Ce sont ces questions que nous avons posées à Jeanne-Sio Fachin. Bienvenue à tous dans le premier épisode de Découvrir et vivre l'hypersensibilité. Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Je suis contente de te voir.
Moi aussi, je suis contente de te voir. C'est vraiment.
Mais oui, moi aussi.
Tout va bien.
C'est toujours un plaisir, sachant qu'on a bien papoté avant. Hein.
Oui, ben oui. Et c'est ça qui est important.
Et oui. Et du coup, écoute, depuis notre dernière rencontre, j'ai eu pas mal de demandes des lecteurs et auditeurs de Blooming You concernant un sujet que tu connais, sur lequel tu as beaucoup réfléchi, qui est l'hypersensibilité. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'aimerais profiter de tes sagesses pour éclairer nos auditeurs, pour le coup, sur ce que c'est, en fait. Donc, j'aimerais qu'on travaille ça sur deux épisodes ensemble, si tu es d'accord. Donc, le premier épisode, là, ici présent, qui va traiter de ce que c'est l'hypersensibilité, comment on la décèle, qu'est-ce que ça change de le savoir, et l'impact relationnel dans le milieu professionnel, personnel et familial, quid de l'amoureux. Et puis, des conseils qui seront également bienvenus pour mieux vivre avec et, le cas échéant, se faire accepter ou s'accepter. Et puis, dans le deuxième épisode, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui est très lié, mais qui est souvent associé à l'hypersensibilité, qui est la question des hauts potentiels. Mmh. On associe souvent, moi je vois pas mal d'ouvrages passer sur l'hypersensibilité et les hauts potentiels, et j'aimerais bien qu'on développe ça ensemble pour comprendre ce qu'est un haut potentiel déjà, et puis est-ce que ça s'associe automatiquement l'hypersensibilité et les hauts potentiels.
Donc, très bien.
Ça te va?
Ça me va très bien.
Bon, bah super. Bon là du coup, moi j'ai envie d'embrayer tout de suite. Et que tu m'expliques un peu, que tu m'éclaires et que tu nous éclaires sur l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est?
Alors l'hypersensibilité, c'est vrai que c'est extrêmement important de comprendre les mécanismes et comment ça marche, parce qu'on est tous sensibles de toute façon. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être sensible? Sensible, c'est un peu comme les anciens appareils photo avec les pellicules qui étaient plus ou moins sensibles à la lumière. C'est-à-dire la sensibilité, c'est notre façon de percevoir et d'être perméable à notre environnement. C'est ça la sensibilité. Donc on est plus ou moins sensible à ce qui est en train de se passer dans notre environnement, que ce soit ce qui est en train de se passer au niveau des images, de ce qui bouge autour de nous, que ce soit des sons, des voix, des musiques que l'on entend, des bruissements dans les arbres, enfin peu importe, enfin tous les sons qui sont autour de nous, que ce soit la sensibilité aux émotions des autres, mais ça j'y reviendrai un peu plus spécifiquement, mais que ce soit aussi la sensibilité kinesthésique, c'est-à-dire la sensibilité de la peau. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, qui supportent ou pas tel type de matière. Tu as des enfants, par exemple, qui disent « Ah, mais non, maman, je ne veux pas mettre ça, ça me gratte. » Et des parents qui disent « Mais non, ça ne gratte pas, c'est très doux. » Sauf que bon, ben, l'enfant, ça le gratte. Donc, on voit bien qu'il y a des différences au niveau de la, de la peau. Il y a des gens, on peut leur mettre n'importe quoi sur la peau, ils s'en fichent complètement. Et d'autres, le moindre petit truc va venir soit les irriter, soit leur faire des rougeurs, des plaques quelquefois. Donc c'est ça la sensibilité. C'est notre façon, finalement, d'être au monde avec notre corps, avec nos sens, avec tout ce que l'on est, mais à travers nos cinq sens. Donc la sensibilité, et donc on va venir à l'hypersensibilité bien évidemment, mais la sensibilité c'est vraiment notre capacité plus ou moins intense de vibrer au moindre murmure du monde. C'est ça la sensibilité. Et la sensibilité est souvent confondue ou réduite à la sensibilité émotionnelle. Et du même coup, confondue avec la sensiblerie. Ça n'a rien à voir. On va pouvoir parler, bien sûr, de sensibilité émotionnelle, mais c'est une des formes de cette hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, ça touche, les études disent que ça touche environ 20% de la population qui serait significativement plus sensible, c'est-à-dire qui réagissent à des seuils plus bas de stimulus. Hein, c'est-à-dire un son faible, ils vont l'entendre. Une odeur, pardon, la sensibilité olfactive est très importante. Hein. Moi, dans une autre vie, j'ai fait un travail de doctorat de recherche sur la psychopathologie des troubles de l'odorat. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien. Mais par exemple, il y a des gens qui sont la moindre odeur dans une pièce, la moindre odeur de personne, la capacité d'identifier une personne seulement à son odeur ou de savoir qu'une personne est passée dans une pièce. Je ne parle pas de parfum, hein, je parle vraiment d'odeur de la personne, mais ça peut aller jusqu'à des hyperosmies, c'est-à-dire une sensibilité excessive au niveau olfactif avec des personnes qui, par exemple, vont se promener dans le métro complètement avec des écharpes entortillées autour du nez parce qu'elles sentent tellement les odeurs qu'elles sont agressées par les odeurs. Tu vois, donc c'est du too much. D'accord. Et là, du coup, on est dans le domaine de l'hypersensibilité olfactive et qui est une forme d'hypersensibilité. Donc c'est vraiment les cinq sens, donc les odeurs, les sons, tu vois, tu as des gens qui vont entendre le moindre petit truc, par exemple, il y a aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup, et pourtant un certain nombre, alors j'ai pas de chiffres parce que je ne sais même pas s'il existe des études là-dessus, en tout cas j'en ai jamais croisé dans ce que j'ai pu lire, et c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'en ai jamais croisé, sur l'hypersensibilité au bruit. Et ça s'appelle l'hyperacousie, ça. Et il y a beaucoup d'adultes, par exemple, qui n'arrivent pas à entendre quand ils sont dans un dîner où il y a plus de 6 personnes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le bruit de fond est trop important et ils en ont plein la tête et ils n'arrivent plus à distinguer de façon audible les propos, les paroles des uns ou des autres. Et au bout d'un moment, c'est souvent des adultes qui finissent au bout d'un moment par se mettre en retrait. On va dire qu'il n'est pas très sociable, il est timide ou il n'a pas grand-chose à dire. Mais c'est simplement qu'il est, d'une certaine façon, abruti par le bruit. Saoulé, on pourrait dire, par le bruit. Et ça, c'est très vrai aussi avec les enfants. Et les parents, ils ne pensent jamais. Quand des enfants se plaignent, par exemple, qu'ils en ont plein la tête, qu'ils n'en peuvent plus, que c'est fatigant à l'école, et bien c'est souvent des enfants, alors pas toujours bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'il faut rechercher, l'hyperacousie chez les enfants, parce que tu as des enfants, au bout d'une journée d'école, ils ont mal à la tête, ils n'en peuvent plus. Donc c'est des enfants qu'il faut mettre par exemple au premier rang, ou même proposer de mettre des bouchons d'oreilles dans les oreilles pour atténuer, tu vois, tous les bruits ambiants, tous les bruits parasites, et en fait avec des bouchons dans les oreilles, ils entendent comme quelqu'un entend de façon normale, c'est-à-dire de façon statistiquement dans la norme. Et puis après, tu as tous l'hypersensibilité visuelle, tu as des personnes qui voient les moindres petits détails, les moindres petits défauts. D'ailleurs, tu vois par exemple les diamantaires, les gens qui travaillent en joaillerie, tu vois tous ces gens qui font des métiers où il faut aller repérer le moindre petit défaut. Ben, ce sont des gens qui ont forcément une acuité visuelle, donc une sensibilité visuelle, qui est plus élevée que la moyenne. Mais quand il y a cette hypersensibilité dans la vie courante, tu peux te sentir agressé par la lumière, tu peux te sentir agressé par les multiples détails que tu perçois, alors que habituellement, on perçoit les choses les plus importantes, ou ce qui nous importe, ou tu vois, ou ce que on a décidé de voir. Et quand tu vois tout et trop, et en particulier pour la vue, on a tous une vision centrale, c'est-à-dire une vision qui est dans le prolongement de l'écartement de nos yeux, à peu près, qui est notre vision où on voit complètement net. Et puis après, on a cette vision périphérique, hein, comme si on avait un peu les yeux sur le côté, qui nous permet de voir à peu près nos mains dans un arc de cercle à peu près de 180 degrés. Et ben, tu as des personnes qui voient beaucoup plus loin et qui voient leurs mains vraiment derrière, donc qui ont un champ perceptif beaucoup plus large. Donc cette hypersensibilité visuelle fait qu'ils voient des choses que celui qui a un champ de vision classique ne verra pas. Donc ça fait beaucoup d'informations qui arrivent au cerveau. Donc ça peut donner cette sensation de trop, de too much, de fatigant, de lourd à porter quelquefois, parce que c'est... Dès qu'on est dans l'hyper, on est dans le plus, on est dans l'excessif. Mais il y a aussi les hypos. Parce que les hyposensibles, ceux qui effectivement n'entendent pas les sons, par exemple, ou ceux qui ne sentent pas les odeurs, pour revenir sur les odeurs. Tu as des gens qui sentent très très peu les odeurs. Alors ça ne gêne pas dans la vie quotidienne. Ou plus exactement, on a l'impression que ça ne gêne pas. Mais par exemple, quelqu'un qui a peu de sensibilité au niveau olfactif, en réalité, c'est quelqu'un qui va avoir très peu de goût, puisque c'est complètement lié, hein, puisque le goût des aliments, ce qu'on appelle communément le goût des aliments, est en réalité l'olfaction qui donne le goût, la flaveur. Et donc, quand tu n'as pas beaucoup de sensibilité olfactive, eh ben, tout est un peu fade. Tu vois, donc tu as moins de plaisir à manger, tu n'as pas de plaisir à goûter des choses un peu différentes. Tu vois, tu as tout un champ de plaisir qui t'échappe totalement. Tu n'as pas beaucoup de plaisir à sentir les odeurs de la nature, à sentir les fleurs. Tu sens un peu, tu vois, mais c'est pas très distinct comme odeur et tout se confond assez vite. Tout devient un peu la même odeur. Donc toutes les hyposensibilités sont aussi des particularités, donc en moins cette fois-ci, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs.
Oui,
on parle beaucoup moins, alors que c'est souvent très handicapant. C'est comme les gens qui n'entendent pas bien et qui sont tout le temps obligés de tendre l'oreille, tu vois, de mettre une espèce de tension pour être attentif aux mots, à ce qui se dit, aux sons. Et ça aussi, ça prend la tête et ça peut faire hyper mal à la tête, les hypoacousies. Et ça aussi, il y a des enfants qui sont hypoacousiques. Et par exemple, normalement, dès qu'on suspecte une dyslexie, par exemple, chez un enfant, donc un trouble de l'accès au langage écrit, normalement, les orthophonistes devraient systématiquement demander un bilan auditif. Parce qu'il y a des enfants qui n'entendent pas bien et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lire.
D'accord.
Et c'est pas parce qu'ils sont dyslexiques, c'est pas parce qu'ils ont un trouble particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on sait, qui est totalement scientifiquement prouvé. Et des enfants, par exemple, qui ont pu être confondus avec des enfants avec des troubles pathologiques graves, comme des psychoses, tu vois, des troubles un peu graves, ou même des troubles du spectre autistique, qui étaient en fait des enfants qui n'entendaient pas, donc qui reconstituaient un monde avec le peu de sons qui captaient et donc de compréhension du monde qu'ils avaient. Et ça, moi, je me souviens très bien quand je travaillais dans le laboratoire du professeur Bernard Gibello à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, c'était quelque chose qu'il nous disait tout le temps. D'abord, on vérifie les oreilles, on vérifie si l'enfant entend bien.
C'est pas quelque chose qui est fait systématiquement?
Non, parce qu'on n'y pense pas.
D'accord.
Tu vois, c'est comme par exemple des gens qui vont pas bien ou qui ont des troubles alimentaires. On pense pas à vérifier leur odorat. Tu vois, ou des personnes, on va dire, qui n'ont pas de plaisir dans certains aspects de la vie. Tu vois, on va dire, ah, mais là, c'est agréable, etc. Mais ce sont quelquefois des personnes qui, même qui ne sentent pas, tu vois, le toucher. Tu vois, quand quand tu as une sensation, une sensibilité au niveau tactile habituel, si quelqu'un te touche, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, tu le sens dans ton corps. Ben, quelqu'un qui est hyposensible au toucher, ça peut presque être désagréable. Tu vois, il y a par exemple des gens qui disent « mais moi, je déteste qu'on me touche ».
C'est vrai.
Ou « je déteste, par exemple, être, pour pousser le curseur un peu plus loin, je déteste être massé ». Ils ne peuvent pas supporter, c'est presque douloureux pour eux, tu vois. Et ça, on n'en parle jamais. Donc, je suis ravie d'avoir cette occasion d'en parler avec toi. Donc, l'hypersensibilité, maintenant, pour revenir là-dessus. Donc, l'hypersensibilité, donc tu vois que c'est quand même plus complexe que simplement l'hypersensibilité émotionnelle. Mais évidemment, il y a aussi cette hypersensibilité émotionnelle. Et l'hypersensibilité émotionnelle, elle est à la fois très neurophysiologique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, au niveau de la constitution, puis après aussi au niveau de leur parcours de vie et d'une certaine forme d'éducation émotionnelle, on va dire, sont très entraînées à faire travailler ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones qui sont situés un peu partout dans notre cerveau, mais probablement plus spécifiquement dans l'avant, là, sous le front, dans le préfrontal, ouais, et qui en fait se synchronisent avec les neurones des autres. Là, par exemple, pendant que tu m'écoutes, on a nos neurones qui synchronisent. Et d'ailleurs, dans le langage courant, on va dire on est sur la même longueur d'onde.
Ouais.
Hein, mais c'est ça qui se passe. Et donc, il y a des personnes qui s'entraînent, enfin, qui ont cette capacité à se connecter beaucoup plus rapidement que d'autres, et donc qui vont sentir instantanément l'état émotionnel de la personne en face. Et donc, c'est là qu'on va parler d'empathie. Hein, l'empathie, c'est la capacité à percevoir les émotions des autres, mais ça passe par des systèmes neurophysiologiques, hein, c'est pas juste un truc un peu ésotérique, oh là là, je suis empathique, ça passe par, je sais pas où, par le temps qui fait, par l'air du temps, par, tu vois, par des ondes un peu mystérieuses, non, c'est complètement, tu vois, c'est électrique, hein, ouais. Parce que les neurones, c'est chimique et électrique. Donc, ça passe par ces neurones-là. Donc, effectivement, tu as des gens qui sont hyper empathiques, du coup, qui sont hyper sensibles émotionnellement parce que la moindre modification, transformation de l'état émotionnel de l'autre, ils le sentent. Et ils le sentent plus fort. C'est-à-dire que comme ils sont hyper sensibles émotionnellement, ça va faire caisse de résonance. Et ça peut être très compliqué parce que tu peux te sentir, quand tu as cette hypersensibilité émotionnelle, envahi constamment par les émotions des autres, y compris par l'émotion du chauffeur, du conducteur de métro. Je te dis ça parce que j'avais une patiente qui me disait que quand elle prenait le métro le matin, elle baissait les yeux sur le quai parce que si elle était à l'avant du quai et que le métro arrivait et qu'elle croisait les yeux du conducteur de métro, ça la mettait mal toute la journée tellement elle percevait, c'était sa perception, hein, c'est pas une réalité, mais elle percevait la tristesse de cet homme qui faisait que faire avancer son métro dans les souterrains toute la journée et que bah, qui personne ne disait ni bonjour, ni au revoir, ni rien. Bon. Et donc, tu as des gens comme ça qui vont capter la moindre vibration émotionnelle qui est aussi dans l'environnement, tu vois, qui vont sentir, qui vont tout de suite d'ailleurs te dire « Oh là là, il y a une ambiance électrique, là, je ne me sens pas bien parce que là, quand même, il y a quelque chose où il y a trop de tension » ou au contraire, qui vont être vite embarqués dans des environnements bienveillants, des environnements, tu vois, affectifs, chaleureux, amoureux, etc. Donc, l'hypersensibilité émotionnelle, ça peut être assez violent parce que il y a une forme de confusion des sentiments et au bout d'un moment, les personnes qui sont hypersensibles émotionnellement ne savent plus très bien quelles sont les émotions qui leur appartiennent en propre et les émotions qui appartiennent à l'autre et surtout ont très vite cette croyance, cette conviction ou cet élan, je ne sais pas très bien d'ailleurs, parce que ça dépend vraiment beaucoup des personnes, que puisqu'elles ressentent, il faut qu'elles aident.
Oui.
Tu vois, puisqu'elles sentent, il faut qu'elles interviennent, il faut qu'elles apaisent, il faut qu'elles soulagent, il faut qu'elles consolent. Il faut, voilà.
Elles sont responsables.
Elles se sentent responsables, ouais. Voilà. Alors que, en fait, c'est très important, ça, tu vois, et par exemple, moi, qui suis psy en particulier dans mon métier, à la fois de développer cette capacité empathique parce que ça me permet de capter, de saisir les émotions de mon patient et en même temps de toujours être très au clair avec ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi. Et de ne pas considérer que je vais aller d'une certaine façon violer le territoire de l'autre. Ces émotions, ce sont ses émotions. Et ce n'est pas parce que je les ressens que je dois complètement les mélanger. Tu vois, c'est, au contraire, c'est parce que je reste au clair avec ce qu'il en est de mes émotions et que je capte les émotions de quelqu'un d'autre que je peux faire des passerelles et mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être important à mettre en place pour cette personne à tel moment de son histoire, de la même façon dans la vie, quand tu as cette capacité d'empathie importante, donc cette hypersensibilité émotionnelle, c'est un énorme atout et pas un handicap, c'est un énorme atout parce que ça te permet d'être beaucoup plus proche de ce que vivent les gens, mais c'est un énorme atout à partir du moment où tu ne prends pas les émotions des autres pour les tiennes. Que tu vois, on n'a pas à piquer les émotions des autres.
Oui, mais c'est quoi la bonne posture? Parce que, en fait, quand tu es dans l'émotion et que tu absorbes l'émotion de l'autre...
Ben c'est ça. Mais justement, il ne faut pas l'absorber. Tu vois, c'est le bon terme. Il ne faut pas absorber les émotions des autres.
Comment tu fais?
Comment tu
concrètement,
fais ? Ben, concrètement, tu te recentres sur toi. En fait, c'est toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est un entraînement. Et une fois encore, c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressée à toutes ces pratiques, tu vois, de pleine conscience, pleine présence, etc. Parce que tu te recentres sur toi, sur les sensations qui sont en toi, sur les sensations dans ton corps et sur le contact avec tes propres émotions. Si tu n'es pas entraîné à ça, effectivement, tu peux très vite te faire... happé, tu vois, par l'émotion des autres et absorbé, pour reprendre ton terme. Mais quand tu es entraîné à avoir développé, et c'est hyper important, tes propres compétences émotionnelles, parce que c'est ça l'idée. Hein, tu vois, quand on parle d'intelligence émotionnelle un peu rapidement, ouais. En fait, on parle de compétences émotionnelles. Et D'accord. Les compétences émotionnelles, c'est savoir... Savoir-faire, savoir-être. Compétence émotionnelle, c'est savoir, c'est-à-dire je sais quelles sont les émotions et je sais quelle est la fonction de chacune des émotions et à quoi me servent et servent chacune des émotions. Tu vois, je le comprends avec mon cerveau, tu vois, je sais qu'une émotion, c'est comme ci, c'est comme ça, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Ça, c'est le savoir, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir-faire, c'est-à-dire j'apprends à repérer et à décoder dans mon corps les sensations physiologiques que je perçois associées à chacune des émotions que j'éprouve. Et je me suis entraînée à décoder le message que m'apportent ces émotions. Donc ça, c'est le 2, c'est le savoir-faire. Et la troisième compétence, c'est le savoir-être. C'est je me suis entraînée et j'ai appris comment je m'ajustais aux autres, à la vie, à une situation, à partir du moment où effectivement j'étais en contact avec une émotion qui se manifestait dans mon corps. Parce que forcément, les émotions, elles se manifestent dans un seul endroit qui est dans le corps. Hein. Tout est dans le corps. Les pensées sont dans le corps, les émotions sont dans le corps, tout est dans le corps. La sensibilité est évidemment dans le corps, c'est les cinq sens, comme on vient d'en parler. Donc, ce qui est très important, c'est de s'entraîner à ça, c'est-à-dire à partir du moment où tu es entraîné, tu peux complètement distinguer, tu vois, c'est comme, là je suis avec toi, mais je n'ai pas la sensation que mon corps et ton corps ne font qu'un. Parce que j'ai appris à, quand j'étais tout bébé comme toi, quand tout va bien, dans le développement normal, un bébé tout petit comprend les limites de son corps propre par rapport au corps de la personne qui s'occupe de lui. Parce qu'un bébé, quand il naît, par exemple, il y a une confusion des corps. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette sensation de limite corporelle. Et donc, tu vois, le corps de l'autre est à la fois un prolongement de son propre corps et son corps lui-même. Et
puis, très lié aux odeurs, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais. Et puis, tu vois, ouais. Voilà. Et puis, évidemment, c'est important que le bébé puisse avoir cette phase d'individuation, tu vois, où il perçoit que son corps, c'est son corps, et que quand il fait un mouvement, c'est lui qui fait le mouvement, et que c'est pas le corps de l'autre qui est en train de diriger comme on dirigerait une marionnette, tu vois. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que sauf que ça se fait normalement tout à fait naturellement, mais que malheureusement on n'apprend pas, y compris aux enfants, à acquérir ces compétences émotionnelles, alors que c'est vraiment la base, parce que c'est un outil majeur. D'abord, c'est un outil majeur pour activer intelligemment notre intelligence. C'est-à-dire, sans émotion, on peut prendre des décisions qui peuvent être dangereuses pour soi ou pour les autres. Sans émotion, on ne peut pas être pleinement intelligent, parce qu'on n'aurait on aurait qu'une intelligence très analytique, très logique, très, très froide, en fait, très désincarnée. Et c'est les émotions qui vont donner toute l'amplitude à l'intelligence, et ça, des neurobiologistes...
Tu parles de l'erreur de Descartes.
Voilà, comme Antonio Damasio l'a magistralement démontré, mais après, ça a été validé scientifiquement par énormément de recherches. Mais décoder ces émotions, apprendre à se familiariser avec elles et à en percevoir les messages et savoir s'ajuster avec ses émotions, c'est vraiment une compétence de base pour la vie, pour notre relation à nous-mêmes, la relation aux autres, la relation au monde, la relation de couple et pour l'hypersensibilité émotionnelle. La seule possibilité de ne pas être envahi et de ne pas être débordé par les émotions des autres, c'est de faire le distinguo entre ce qui est à moi, ce qui est à toi.
Et comment, alors, pour terminer, comment en tant que parent, on peut, puisque tu parlais des enfants, comment on peut, est-ce que tu as des astuces pour aider les parents déjà à distinguer si leur enfant est hypersensible, et puis si c'est le cas, comment adresser, et je crois même qu'on sort même de l'idée de l'hypersensibilité, là, tu es vraiment, donc comment accompagner et éduquer nos enfants à la gestion de leurs propres émotions, globalement?
Oui, mais et puis de leur propre sensibilité. Alors pour les hypersensibilités auditives, visuelles, olfactives et tactiles, en fait, c'est plus par. Il faut être attentif, tu vois, un enfant qui est toujours ah mais ça me gratte, ah mais ça je supporte pas, ah mais ça je sais pas que ça, tu vois, de pas tout de suite dire mais non c'est doux, ou comme je le disais tout à l'heure, mais pouvoir dire mais qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens, mais est-ce que ça c'est mieux pour toi, c'est-à-dire d'explorer, parce que de toute façon il n'y a pas ni de test ni de médecin spécialisé là-dedans, tu vois, donc c'est plus une question d'intuition et de sensibilité pour le coup des parents. Après pour la vision, après tu vois, on peut toujours aller voir un ophtalmo, mais ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est plus intéressant, là, c'est de pouvoir s'amuser de ça avec ses enfants, de dire « Ah bon, mais et si je le mets là, est-ce que tu vois ?» Tu vois, et par exemple, moi, il y a quelque chose que je fais aussi avec certains de mes patients et qui est très intéressant à faire avec les enfants très jeunes, c'est de mettre, tu sais, qui sont des jeux vieux comme le monde, hein, de mettre des objets très différents sur une table et puis de dire on se donne quelques secondes ou quelques minutes et après on enlève et on voit ce que les enfants ce dont les enfants peuvent se souvenir. Bien sûr que c'est la mémoire, mais c'est la mémoire visuelle, c'est aussi la capacité de la sensibilité à ce qu'on voit, tu vois. Et après, tu peux t'amuser avec des enfants à rendre le champ de l'observation beaucoup plus complexe, ou alors aller observer. Moi, par exemple, j'ai des images complexes, des images, tu vois, des photos avec des zones dans l'ombre, des zones dans la lumière et tout, avec des objets qui se voient bien et d'autres qui sont beaucoup plus petits, plus grands, et de demander à un enfant. Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Tu vas dire ça permet d'évaluer la profondeur du champ de vision et tout ce qu'un enfant est capable de voir dans une même image ou même dans un paysage, tu vois, de façon complètement naturelle, de s'arrêter dans un paysage, dans la nature et dire tiens, dis-moi tout ce que tu vois. Tu vois, et d'abord, c'est très soulageant ça soulage beaucoup les enfants, parce que les enfants, souvent, par exemple, les hyperosmiques, ceux qui sont. Ils ne savent pas que les autres ne sentent pas comme eux. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas parce que
on pense que tout le monde est comme nous.
Oui, ouais. Voilà. Donc tu vois, c'est très intéressant d'être attentif à son enfant pour tous ces sens-là et pour la sensibilité émotionnelle. Ce qui est important. Bon, d'abord, on le sent très bien. Un enfant, tu vois, qui va vite avoir les larmes aux yeux ou qui va vite se mettre à pleurer ou qui. On le voit bien, la réactivité d'un enfant à l'environnement émotionnel. Et après, ce qui est très important au niveau de l'éducation émotionnelle, l'éducation des compétences émotionnelles, c'est pouvoir dire à un enfant, tiens, là. J'ai l'impression que tu ressens de la colère, c'est-à-dire de nommer, tu vois, et de voir si on est OK avec l'enfant, ou de la peur, ou de la tristesse, et puis de voir si c'est OK avec l'enfant, si c'est bien cette émotion qu'il perçoit. Mais dis-moi, Où est-ce que tu le sens exactement dans ton corps quand tu es triste? Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Ah, c'est dans ton ventre. Mais dans ton ventre, qu'est-ce que ça fait exactement dans ton ventre? Ça tire, ça te fait comme un poing, ça te fait comme si tu avais le ventre serré, ou au contraire, ça te fait comme une brûlure. C'est-à-dire d'apprendre à un enfant à décoder les signaux corporels liés à ses émotions et à distinguer les signaux corporels, les manifestations corporelles, en fonction des différentes émotions. Tu vas pas du tout ressentir la même chose si tu es hyper joyeux ou si tu es hyper triste dans ton corps. Parce que c'est comme ça, une émotion, c'est la définition d'une émotion, c'est la réaction physiologique de l'organisme pour s'adapter. Donc une émotion, c'est ex movere, c'est se mettre en mouvement, c'est s'adapter à ce qui est en train de se passer. Et en fait, chaque émotion à une physiologie qui est propre. Tu vois, par exemple, quand tu as peur, tu as le rythme cardiaque qui s'accélère, tu as du sang qui afflue dans tes muscles, tu cours jamais aussi vite que quand tu as peur, tu vois. Donc tout ça, ça veut dire que ton corps se modifie en présence de l'émotion, et donc tu as des manifestations corporelles. Donc si on entraîne nos enfants à capter ces modifications corporelles, eh ben on leur apprend à jouer sur une gamme émotionnelle dont ils deviennent, si tu veux, les héros. Parce que à ce moment-là, eux-mêmes peuvent dire « Ah là, je sens, là, je suis triste. » Et puis finalement, s'interroger ben, « Tiens, qu'est-ce qui me rend triste dans mon environnement là tout de suite? Qu'est-ce que c'est qui me fait triste ?» Sinon, la tristesse, ça veut dire « Ah, mais ça va pas, j'en ai marre, tout m'énerve. » Ok, mais derrière, ça va pas, ou tout m'énerve, ou j'en ai ras-le-bol, ou c'est deg. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est derrière cet écran de ces mots, je suis au bout de ma vie, ok, je suis au bout de ma vie, mais c'est quoi l'émotion derrière qui a fait qu'on a eu cette espèce de sensation complètement un peu de boulgui-boulga, tu vois, tout est mélangé, et du coup, l'enfant dit, ah, j'en ai marre, tu m'énerves, c'est insupportable, tu vois, il va se mettre en colère ou s'énerver, alors qu'en fait, c'est une émotion de tristesse au départ qui était là.
D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est d'apprendre à nos enfants à verbaliser ce qu'ils ressentent, parce que ça vient d'abord par le corps.
Oui, c'est ça, c'est ça. À repérer dans le corps, tu vois.
À repérer dans le corps et à verbaliser. Et une fois qu'ils ont verbalisé, on leur dit quoi?
Mais une fois qu'ils ont verbalisé quoi? Ça dépend.
L'émotion. Tiens, par exemple, un cas concret qui peut arriver très souvent, en tout cas moi qui m'arrive très souvent, le caprice d'un enfant génère, quand on n'y répond pas, ça génère une frustration. Le fait d'aider l'enfant à nommer, effectivement, de nommer physiquement ce que ça veut dire pour lui, cette frustration, une fois qu'on a fait ça, comment on fait? Ou alors, où est-ce que ça peut aider notre enfant à réguler ou à gérer cette notion de désir, son rapport au désir, patience, enfin, je me...
je oui, mais déjà, tu vois, tu pars d'un postulat où tu parles de caprice. Ouais. Donc, ça veut dire que tu... Dans ta croyance à toi, un enfant qui, dans certaines situations, va se mettre à pleurer ou manifester de la colère, c'est un caprice. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'excessif et qui ne devrait pas se produire. Donc, tu vois, dans tes mots, il y a « ça ne devrait pas ». Or, un enfant qui pleure, il a toujours une bonne raison de pleurer.
Alors, si je peux juste préciser, je tu me diras si ça reste vas-y, toujours. Vas-y. Si ça répond à un besoin matériel, tu vois, je ne sais pas, j'ai envie d'aller là, au parc, ou j'ai envie d'avoir ce jouet-là, et que tu réponds, est-ce que ça répond, est-ce qu'on est, enfin, ça ne reste pas un caprice? Le fait de répondre non, enfin, je...
Mais ce n'est pas un caprice, tu as le droit dans la vie de manifester une envie. Oui. Tu as le droit de manifester une envie, et tu as le droit d'être triste, ou en colère, ou d'avoir peur, peu importe, parce que ou d'être dégoûté, parce que c'est une émotion, le dégoût, parce qu'on t'a dit non. D'accord. Et donc, si tu veux, il y a un enfant qui pleure, un enfant, il a jamais... Tu vois, les parents qui disent « mais tu n'as aucune raison de pleurer », c'est manifester un déni incroyable pour le monde émotionnel de l'enfant. D'accord. C'est pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant en pleure que l'enfant n'a aucune raison de pleurer. D'accord. Et nous, on a vraiment aucune raison, et on ne vraiment aucune raison de dire à un enfant, tu n'as aucune raison de pleurer.
D'accord.
Aucune. Okay. En revanche, on peut lui dire, écoute, je vois que tu pleures, en fait, je ne comprends pas pourquoi tu pleures, est-ce que tu pleures. Et puis, si l'enfant, selon l'âge de l'enfant, tu vas pouvoir l'aider à dire, mais qu'est-ce que c'est qui te rend triste? Qu'est-ce que c'est qui te met en colère comme ça? Est-ce que parce que, en fait, tu avais très envie d'un bonbon et que tu trouves que ce n'est pas juste? Et comment, tu vois, est-ce que si on se dit que ben, le bonbon que tu ne peux pas manger maintenant. Ben oui, effectivement, moi je comprends, c'est très 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 agaçant quand on a très très envie de quelque chose et qu'on ne peut pas l'avoir. Mais bon, voilà, on va se débrouiller pour que tu puisses le manger à un autre moment. Et puis bon, peut-être que ça n'empêchera pas ta colère, mais il a droit à un enfant de.
Ouais,
tu vois, c'est, ouais. si, je ne sais pas moi, si toi, c'est quelqu'un qui fume, qui a très très envie d'une cigarette et qu'on lui dit mais non, mais non, mais non, et puis il ne faut pas que tu fumes, et puis ce n'est pas le moment de fumer, et puis tu fumeras dans 2 heures, et puis voilà, écoute, je te prends tes cigarettes et tu auras, je te les donnerai quand on sera rentré à la maison, mais tu peux devenir, tu vois, hargneux. Tu vois, et donc un caprice, un enfant qui a envie d'aller au parc alors que c'est le moment de rentrer, ben finalement c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un enfant qui a envie de jouer, qui a envie de se dépenser, lui dire ben, écoute, c'est super, je suis hyper contente que tu aies envie d'aller au parc, je suis hyper contente que tu aies envie de jouer, c'est génial, moi aussi j'ai adoré ce moment, c'est vrai que c'est toujours un peu énervant quand on doit arrêter quelque chose qu'on aime bien, mais c'est énervant pour nous, Amal. Tu t'en fais un truc que tu adores et tout d'un coup on dit c'est fini. Tu vois?
Non, non, mais c'est vrai, ça éclaire énormément. C'est, ouais, parce que oui, je comprends que.
Tu vois, il ne s'agit pas d'analyser machin, mais de dire ah bah ouais, mon chéri, je te comprends que ça soit hyper énervant, mais enfin, de toute façon, là, on n'a pas d'autre moyen que de rentrer à la maison, donc on va rentrer à la maison. Mais bon, je comprends que tu sois en colère et. À la limite, sois en colère, que ça veut bien faire. Il a le droit d'être en colère.
Ouais, c'est pas grave.
Non? Ça va passer de toute façon, une colère, tu sais comme une émotion, tu sais combien ça dure?
Ah, bah dis-moi.
90 secondes.
Ah, ça va.
Ça monte, il y a un pic et ça redescend. Sauf si on commence à blablater sur l'émotion.
D'accord.
Ou nous, les adultes, si on commence à se dire, oui, mais alors quand même, c'est pas juste, parce que quand même, moi, ça me met vraiment en colère, parce que dans cette situation, ça aurait pas dû se passer comme ça, et peut-être déjà la dernière fois, c'était comme ça. Et ça, ça peut durer toute la vie.
Le fait de ressasser.
De ressasser, et puis tu vois, de se faire tout un dialogue autour de l'émotion qu'on a ressentie. Mais l'émotion pure, ça dure 90 secondes.
Ouais.
Donc, tu vois, un gamin avec lequel on va pas alimenter sa colère, ben ça dure 90 secondes.
Ok.
Plutôt pas mal.
Eh bien, non, mais c'est aussi très utile par rapport à l'hypersensibilité, puisque quand on est hypersensible, en fait, tu viens de nous donner le moyen de pouvoir gérer ça aussi.
Mais c'est surtout que c'est un atout formidable, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi le lit et le creuset de la créativité, c'est le lit et le creuset de l'intuition. Quand on est hypersensible, on sent les choses avant les autres, on a une intelligence qui est souvent très visionnaire, très fulgurante, parce que justement, quand tu es sensible, tu vois, tu captes des trucs que les autres ne captent pas. Donc, c'est génial d'être hypersensible.
Et il y a, oui, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça change vraiment quelque chose de le savoir pour soi?
Ben, on le sait, tu sais, quand on est hypersensible, en général, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais de toute façon, toi, tu es tellement sensible. De toute façon, toi, tu es hypersensible. Il y a toujours des gens, on le sait au bout d'un moment, et puis il va dire, ben oui, je suis hypersensible et fier de l'être.
Très bien. Ok, super. Ben merci.
Merci Jeanne. À toi.
Ben rendez-vous pour le prochain épisode sur l'hypersensibilité et le haut potentiel. Donc, ben, je vous dis à très, très, très bientôt. Merci à
merci
tous.
Merci beaucoup, Amal.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour le deuxième et dernier épisode sur Découvrir et vivre l'hypersensibilité, épisode dans lequel la psychologue Jeanne Fachin va nous éclairer sur le lien entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !